France Culture.
Les Midi de Culture, la suite. Tout à l'heure, à 13h, je recevrai la metteuse en scène Julie Deliquet pour La guerre n'a pas un visage de femme. Mais tout de suite, Marie Sorbier pour le Point Culture. Bonjour.
Bonjour Marie. Le Point Culture aujourd'hui est dédié aux nouvelles traductions et à leur nécessité. Deux traductrices de russe se sont attelées à deux textes du patrimoine, les frères Karamazov, de Dostoïevski et Les Marches de Vassili Kandinsky. Sophie Bénèche, bonjour.
Bonjour.
Vous signez une nouvelle traduction des frères Karamazov qui paraît cette semaine chez Zulma. À ce même micro, il y a moins d'un an, nous évoquions déjà une nouvelle traduction. C'était Emma Lavigne qui l'a signée et ça sortait chez Littera. Deux traductions des frères Karamazov en un an, ça semble beaucoup. Pourquoi se lancer dans un tel projet ?
D'abord, je pense qu'il faudrait que vous posiez la question à mon éditrice, Laure Leroy, parce que c'est elle qui m'a contactée qui m'a téléphoné un jour en me demandant si ça me disait de retraduire les frères Karamazov. Et deux ou trois mois après avoir signé le contrat, on a appris qu'il y avait une autre traduction qui allait reparaître. Donc en fait, c'est un peu un hasard éditorial, je dirais. Parce qu'il faut dire qu'il y avait que trois traductions qui étaient disponibles à l'époque. Il y avait celle de Folio, qui date de 1935, celle du livre de poche, qui date de 48, et celle d'André Markovitch, qui date de 2002. Et il s'est trouvé qu'il y a eu deux traductions qui sont parues quasiment en même temps, mais je pense que c'est vraiment un hasard, quoi.
Vous évoquiez ces précédentes traductions. Est-ce que vous, avant de vous lancer dans une traduction comme ça d'un monument de la littérature, est-ce que vous les lisez, ces précédentes traductions-là, ou bien vous préférez les tenir à distance ?
Je les regarde parce que moi, ça m'intéresse toujours de voir comment mes collègues se débrouillent avec les problèmes avec lesquels je suis confrontée. Mais pas du tout au début de ma traduction. Je les regarde plutôt vers la fin. Mais pas tout, évidemment. Je regarde certains points un peu délicats. Je vais regarder. Mais là, j'avoue que j'ai regardé les trois traductions dont je vous ai parlé, les trois premières. J'ai pas du tout regardé celle de Galmester, que je n'avais pas. Je l'ai regardée qu'il y a un mois.
Et quand vous regardiez ces trois précédentes traductions, vous avez senti tout de suite les enjeux de cette, justement, nouvelle traduction, là où vous aviez, vous, quelque chose à apporter?
En fait, je me suis rendu compte que la nouvelle traduction que Markovitch avait faite il y a 20 ans était absolument indispensable. Vraiment, il fallait rendre autrement la voix de Dostoïevski. Maintenant, la façon dont André Markovitch l'a entendu et l'a rendu n'est pas la mienne. Donc, je n'entends pas la même voix que lui, mais chacun entend la voix.
Mais comment vous la définiriez, votre voix, à vous ?
Ah, c'est très difficile parce que, vous savez, un livre, c'est une traduction, c'est comme un être vivant. Où il vit, où il vit pas. Où elle a un souffle. Et ça tient à des milliards de petits détails. En fait, avoir des traductions qui ont été faites avant, retraduire, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce que c'est une sorte de filet. Quand vraiment, par exemple, vous avez vraiment un gros doute, vous allez voir comment ont fait vos collègues. Mais en même temps, c'est un gros inconvénient parce que quand vous lisez une traduction, ça empêche votre imagination et votre esprit d'aller trouver d'autres solutions. Donc, il faut faire très attention à pas être influencé dans le mauvais sens ou dans le bon sens, c'est-à-dire « Ah, je veux absolument pas faire ça » ou « Ah, il est vraiment bien tombé, on peut pas faire autrement ». Et il faut trouver d'abord sa propre traduction avant d'aller voir celle des autres, je pense.
Les frères Karamazov, ce n'est pas un roman simple, hein. Il pose beaucoup de questions, il apporte peu de réponses. Avez-vous, en traduisant, percé certains mystères, Sophie Bénèche ?
Non, la seule chose que j'ai comprise, c'est qu'il est encore plus profond que je ne pensais. C'est-à-dire déjà, pour moi, c'était un roman avec des multiples strates et plus on s'enfonçait, plus on s'apercevait que ça n'avait pas de fond. Et en fait, en traduisant, c'est vraiment ce qui ne pardonne pas, traduire. Le traducteur, c'est celui qui voit tout de suite si c'est authentique, si c'est profond, pas profond, superficiel. Enfin, me semble-t-il. Et là, sans fond. J'ai trouvé que c'était un livre sans fond et en plus extrêmement actuel, qui pose des questions qui sont exactement celles que nous sommes en train de nous poser aujourd'hui sur la société, sur la liberté, sur le mal, sur le droit de tuer,
sur la famille, hein, qui est le grand sujet de cette rentrée littéraire, en fait. Ouais.
Sur la famille, sur la fin de l'autorité, sur l'athéisme, enfin la mort de Dieu, c'est la mort du Père, c'est la mort de l'autorité. Et qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans nos sociétés ? Il avait vraiment tout senti, tout pressenti, la deuxième moitié du 19e siècle. Tout ce qui allait se passer non seulement au 20e siècle, mais même au 21e. En plus, c'est justement pour ça que ça vaut la peine d'être traduit. Parce qu'un grand livre, il mérite d'avoir plusieurs interprétations, parce que c'est un peu rebattu de dire qu'un traducteur, c'est comme un interprète de musique, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire une grande œuvre, ça vous dérange pas qu'il y ait plusieurs interprètes, grands interprètes, qui essayent de rendre ce qu'ils ont senti. À chaque fois, il faut ressortir quelque chose. Il y en a certains qui plaisent plus à votre sensibilité, d'autres plus à la sensibilité d'un autre.
Bien, merci beaucoup, Sophie Benet. Je crois que vous nous avez donné très envie de lire ou de relire Les Frères Karamazov.
Mais tant mieux, c'est ce que je voudrais.
Qui sort donc dans une nouvelle traduction que vous signez chez Ulma. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Catherine Perel, bonjour.
Bonjour.
Vous signez la traduction d'un texte autobiographique du peintre et poète Vassili Kandinsky, il s'appelle Les Marches. C'est un court récit lumineux qui raconte sa découverte de l'abstraction. Alors ce récit, il a une histoire linguistique un peu particulière puisqu'il a d'abord été publié en allemand en 1913 et puis l'auteur s'est lui-même donc auto-traduit en russe, qui était sa langue maternelle, en 1918. Et c'est justement de ce texte en russe que vous proposez aujourd'hui une traduction, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. En fait, on se pose peu la question de la langue des écrits de Kandinsky. Or là, ça apparaît de façon fondamentale. Il était beaucoup plus russophone que germanophone. Il a eu une grand-mère allemande de la Baltique qui lui a raconté des contes et des histoires enfant, mais il a fait toute sa formation intellectuelle en russe, il a étudié le droit et il est parti en Allemagne vraiment à 30 ans pour étudier l'art. Donc il y avait un gros déséquilibre en fait entre sa maîtrise des deux langues et par exemple du spirituel dans l'art a été refusé plusieurs fois parce que l'allemand était trop fautif. Et c'est grâce à l'aide de Gabriel Munter qu'il a pu le publier finalement en allemand avant le récit dont on parle qui s'appelle Les Marches, qu'il a publié directement en allemand. C'est pas exactement quelle était au fond la langue de son écriture profonde. Moi, il me semble que c'était le russe, parce qu'il y a une énorme différence entre son aisance en russe et le texte traduit de l'allemand et le texte traduit du russe sont, au bout du compte, extrêmement différents, le russe étant beaucoup plus poétique et maîtrisé, lumineux, je dirais, effectivement, étincelant même.
Comment vous définiriez justement la langue de Kandinsky ? C'est vrai qu'on en parle peu, or quand on lit ce texte, on la sent, la langue, hein. Elle est très belle, elle est très présente, mais vous, quel mot mettriez-vous sur cette langue-là ?
Je dirais qu'il était poète avant toute chose, poète en peinture, poète en tout. Pour lui, les différents médiums sont juste des instruments et il peut changer d'instrument. Il dit que toute sa vie, il a vraiment écrit des poèmes. Et donc, c'est une langue à la fois poétique, simple, accessible et très immédiate, fondée sur les sensations. Donc, c'est très beau parce qu'on voit l'enfance d'un peintre. Il raconte l'enfance d'un peintre qui est aussi l'enfance de la peinture, en fait. L'inconscient de la peinture. Et ce texte qui a été écrit aussi comme une défense de l'abstraction qui était à son tout début et qui était violemment attaquée, il est saisissant parce que c'est une défense sensible, belle, écrite avec beauté, sensibilité, basée sur la sensorialité, et pas du tout un écrit froid et théorique comme on aurait pu imaginer.
Oui, on a parfois l'impression, quand on parle des écrits de Kandinsky, qu'ils sont un peu abscons, qu'ils sont même difficiles d'accès. Or là, quand on lit Les Marches, c'est pas du tout la sensation qu'on a.
C'est tout à fait différent. C'est une plongée en lui-même. C'est une autre partie de son œuvre qui est beaucoup moins connue et qui est beaucoup plus sensible. Il y a quelque chose d'extrêmement profond dans sa façon d'envisager la peinture. C'est le monde qui entre en lui, en fait, qui imprime ses couleurs en lui. Et les couleurs sont vivantes, il le raconte, c'est très beau. Les couleurs sont des êtres vivants qui sortent des tubes et courent sur la palette.
Alors vous l'avez dit, hein, ce texte, vous êtes parti du texte russe qui est donc une auto-traduction d'un texte allemand. Est-ce qu'il reste des traces d'allemand dans le texte russe que vous avez traduit ? Si oui, comment vous retranscrivez ces germanismes en français ?
Il n'y en a pas du tout, j'en ai trouvé strictement aucun. Rien m'a semblé non russe en fait. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une différence de maîtrise, c'est net. Non, et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que la version allemande traduite de l'allemand existe en français dans un livre qui s'appelle « Regard sur le passé », qui est plus à destination des historiens de l'art, peut-être, avec toutes les différentes variantes indiquées, etc. Et on voit bien que la maîtrise de la langue n'est pas du tout la même, ça apparaît clairement.
Eh bien, merci beaucoup Catherine Perel. Et je rappelle que donc Les Marches que vous venez de retraduire de Vassili Kandinsky paraît cette semaine aux éditions Verdier. Merci.
Merci à vous.
Et merci Marie. On se retrouve demain.
Et à demain.
À demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.